France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il nous propose une plongée dans l'univers et l'écriture de Jean-Luc Lagarce, tour à tour intime et chorale. Vincent Dedienne et le metteur en scène Joanne Hibert seront mes invités à partir de 13h. Mais d'abord, on critique. Au sommaire aujourd'hui, deux séries, la saison 2 de Severance de Dan Erickson, c'est sur Apple TV, et Family Like Ours de Thomas Vinterberg, c'est sur MyCanal. Voilà pour le menu. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à nos critiques du jour. Olivier Joyard, critique et réalisateur.
Bonjour Marie.
Bonjour. Nora Boisouni, journaliste et auteur.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. 3 ans après la fin de la saison 1, le carton d'Apple TV Severance est donc de retour. On retrouve Mark Scott et ses collègues de nouveau plongés dans l'univers angoissant de leur entreprise Lumon. L'entreprise dont l'objectif reste toujours aussi mystérieux, mais dont les méthodes n'ont pas changé. Elle pratique la Severance, l'implantation d'une puce électronique sur chaque salarié pour qu'il oublie instantanément le monde extérieur et même lui-même au moment où il arrive sur son lieu de travail. Dans la première saison, quelques employés tentaient de se révolter. Où nous emmène cette nouvelle volée d'épisodes? On va voir ça et on commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre. D'abord, Nora Boisouni.
Alors, où est-ce que ça nous emmène? J'aimerais juste dire au public que nous, les critiques, recevons des épisodes en avant-première, évidemment, pour faire notre travail, et que certains critiques ont reçu seulement 6 épisodes sur 10. Il paraît que des choses se passent à la fin de la saison. Donc, c'est compliqué d'avoir un avis critique quand on n'a pas vu la globalité d'une saison. Moi, j'en ai vu 9 et demi, on va dire, 8 et demi. Eh bien, je suis extrêmement déçue. Je trouve que on n'apprend rien de plus. Il ne se passe rien dans les 7, 8 premiers, je dirais, carrément. Donc, pour l'instant, mon avis est très, très, très mitigé. Je trouve que le propos est très dilué et que le mystère s'épaissit.
Olivier Joyard.
Moi, c'est carrément depuis le début. Ah. Je pense un peu ça de Severance. C'est-à-dire qu'au bout de 2 saisons et 3 ans, j'ai toujours du mal à briser la glace avec cette série. Vous savez, ces séries qu'on a envie d'aimer, il faut quand même approcher une série, un récit, surtout aussi étrange que celui-là. C'est un monde qui est à la fois complètement le nôtre et une forme de dystopie, enfin en tout cas un monde parallèle au nôtre, quoi, avec de la science-fiction. J'ai le sentiment que la série est importante, qu'elle raconte vraiment notre rapport au travail, entre autres, notamment notre rapport à l'identité aussi, mais j'arrive pas complètement à y adhérer. Même si ça s'est un tout petit peu amélioré pour moi dans cette deuxième saison, qui s'agite beaucoup pour devenir désirable, pour mettre du cœur et du corps, là où il y avait beaucoup d'idées et des choses un peu figées dans la première saison.
On va continuer à discuter, mais d'abord, on écoute la bande-annonce de Severance.
Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. Le Marc que j'ai appris à connaître est un homme heureux.
Bonjour, quelqu'un m'entend? Est-ce que le bureau écoute? Ici, Marc S, je travaille au RAF.
Vous savez, ce que vous avez fait il y a 5 mois fut l'un des moments les plus pénibles de toute l'histoire de l'entreprise.
C'est quoi ça?
Votre groupe est devenu la personnification de la réforme des dissociés.
On n'est pas dans la merde quand même!
Non, je ne crois pas.
Ils ont même dit qu'on est célèbres là-haut.
On est aussi célèbres les uns que les autres, William Star.
Alors vous avez vu quoi là-haut? Dites-moi. Là-haut, ce n'est pas notre monde.
Mon ex-terre a perdu sa femme il y a quelques années.
La femme est Madame Cassé.
La saison 2 de Severance de Dan Erickson, c'est sur Apple TV. Nora Boisouni, propos dilué par rapport à la première saison.
Oui, comme disait Olivier, je trouve que ce qui était intéressant dans la première saison, c'était de raconter le rapport au travail, la déshumanisation de ces gens qui ont des tâches monomaniaques. On ne sait même pas pourquoi ils et elles le font, ils et elles ne savent pas non plus. Le rapport de qui est-on en réalité, qui est-on au travail, qui est-on à l'extérieur. Cette multinationale dont on en apprend un tout petit peu plus dans la saison 2, on va pas spoiler les gens, hein, je préfère rassurer tout le monde, ne coupez pas la radio tout de suite. mais là, j'ai l'impression que le propos est devenu extrêmement littéral sur l'identité, qu'on a dilué beaucoup de choses pour rajouter des couches de mystère et donner envie aux gens d'accrocher sur d'autres sujets. Et je pense notamment, cette saison 2 m'a fait penser à une autre série que pourtant j'adore, mais qui a beaucoup de défauts, qui est Lost.
Je vois pas le lien, moi, par contre.
Alors, allez-y. Justement, Lost naviguait à vue dès le début, ils l'ont admis assez tôt, les créateurs et créatrices de la série. On retrouve dans cette saison 2, même dans la saison 2, des éléments qui m'ont fait penser à Lost, des éléments assez tangibles, par exemple les biquettes de Severance, pour moi c'est l'ours polaire de Lost, ces chiffres sur ces écrans, ce sont les chiffres dans Lost, tout ce matériel informatique rétro, on le trouve dans Lost, Lumon c'est la Dharma Initiative. On a les innie outies, on a les the others, les autres dans Lost. On a des mystères qui s'épaississent, des renégats, des gens qui cherchent à percer les mystères. Donc j'ai eu l'impression de revoir une série qui cherche à construire une mythologie pour pouvoir avoir sur Internet des fans qui partent complètement en vrille. Et j'ai pensé aussi à True Detective saison 1. Qui était quand même la série avec des élucubrations sur Reddit ou pour avoir au final une série complètement... voilà, où le Supernatural n'avait pas beaucoup droit de citer. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une surenchère dans le propos, mais et en même temps, ce qui m'intéressait était dilué. Donc pas de résolution, en tout cas dans les 8 premiers épisodes, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères.
Olivier Joyard.
Ouais, je suis pas sûr que la résolution soit vraiment le principe de Severance qui cherche plutôt à, là où je suis d'accord avec Nora, à donner les signes d'une grande série. C'est-à-dire que c'est vraiment typique de 2025, des années 2020 par rapport aux séries à mes yeux en tout cas. C'est-à-dire qu'on arrive après l'âge d'or dont on peut le situer, disons, il y a 15-20 ans, qui s'est renouvelé sous d'une autre manière dans les années 2010. Et aujourd'hui, on a très très peu de grandes séries. C'est-à-dire que en clair, le rôle que joue Severance dans le paysage sériel aujourd'hui, c'est-à-dire c'est celle d'une série qui parle du monde, qui essaie de trouver une forme extrêmement précise, adéquate pour évoquer tout ça, et qui le fait avec une forme de... Non pas en n'accueillant pas les spectateurs, mais en tous les cas, en prenant le risque de les laisser à la porte, ce qui est plutôt une qualité à mes yeux. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le travail, le boulot pour aller à l'intérieur et pour essayer de creuser un peu ce qui s'y passe. Mais malheureusement, c'est presque une post-série, quoi, à mes yeux. C'est-à-dire que, au moins dans Lost, il y avait quand même du romanesque, il y avait quelque chose d'extrêmement émouvant, tout simplement, en fait, tout bêtement. Là, moi, ça m'intéresse un tout petit peu les efforts que fait cette deuxième saison pour, comme je disais tout à l'heure, se donner du corps et du cœur, c'est-à-dire d'avoir peut-être notamment, il y a un truc qui est vraiment très très réussi, c'est avec la femme d'un des personnages, les personnages sont donc dissociés, ils ont un mois à l'intérieur de l'entreprise et un mois à l'extérieur. Il y a la femme d'un des personnages qui vient de l'extérieur et qui fait des espèces de... comme une visite en prison, quoi, comme si elle était au parloir. C'est Merritt Wever, cette actrice qui était dans Nurse Jackie, notamment, que j'avais... et dans Unbelievable aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et qui, là, tout à coup, arrive avec son corps, avec sa voix, qui présente quelque chose qui, immédiatement, on se connecte à ce qui se passe dans la série. Le reste du temps, moi, je suis... plutôt en train de réfléchir en me disant, moi, est-ce que je vis ça? Est-ce que vraiment c'est pertinent sur l'époque, sur ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire ces boulots qui n'ont pas de sens vraiment? Là, ils entrent des chiffres, ils discutent au fond de façon extrêmement sérieuse de choses qui n'ont quasiment aucun intérêt tout le temps. C'est une série de couloirs, quoi, Severance. Beaucoup, on marche, on discute, aussi des couloirs de dialogue, hein, quand même. Enfin, bon, voilà. Donc, je me retrouve souvent presque embourbé en me disant, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi?
Nora Boisouni, sur le travail notamment, est-ce qu'il creuse quelque chose de plus? Parce que dans la première saison, on avait compris en fait ce qu'il voulait dire.
Ben justement, alors c'est difficile de pas spoiler vraiment quand on parle d'une saison 2. On commence à comprendre que certains personnages sont plus importants que d'autres. Et ça, on commence à le comprendre à la fin de cette saison 2. Donc je n'en dirai pas plus. On creuse aussi d'autres personnages, ce qui nous permet justement, comme le disait Olivier, d'incarner... et de découvrir l'histoire de certains personnages. Pareil, je ne vais pas dire qui non plus, c'est compliqué. Sur le travail, moi j'ai l'impression que le propos, il n'y a plus grand-chose à raconter. C'est pour ça que je parlais de résolution, en tout cas d'explication, c'est-à-dire que ça y est, on a compris. Hein, voilà. Effectivement, avec le couple formé par Merritt Wever, et j'ai oublié le nom de l'autre personnage,
C'est lequel? Il savait son nom de famille, son prénom, c'est quoi? C'est Rican, Irving, Dylan.
Dylan, voilà.
Dylan, c'est Dylan Zach Sherry.
Aussi, je crois. Et donc, c'est sa femme qui vient, enfin, la femme de son outie qui vient. Là aussi, effectivement, on a de l'émotion, il y a des choses qui vont se passer, on peut pas en dire plus. Donc, il y a quelques personnages comme ça où le puzzle commence un peu à se mettre en place, ou bien l'émotion se met en place. En revanche, moi, comme le dit très justement Olivier, moi, j'aime pas être à la porte d'une série pendant deux saisons. Et je trouve que, non seulement on peut pas en fait arriver en étant Severance et oublier qu'il y a un héritage avant, qui est ce dont je parlais, c'est-à-dire Lost par exemple, avec des séries qui nous ont laissé à la porte pendant très longtemps, mais où très justement il y avait beaucoup d'émotions, des personnages à qui on s'attachait. Là j'ai l'impression que les personnages, en tout cas les acteurs-actrices, s'amusent un peu moins, moi je m'amuse un peu moins, et finalement j'ai plus envie de savoir... Bah, qui est Lumon? Que fait Lumon? Ah oui. Pourquoi? La question, c'est pourquoi, que de savoir ce qui va leur arriver. Alors, il faut aussi dire quand même que la série se veut extrêmement esthétique, esthétisante. C'est absolument sublime. Je trouve qu'en termes de réalisation, là, on est sur une grande série, mais ça reste très, très froid. Et d'ailleurs, la photographie est très froide et les lieux, pour le coup, géographiquement, sont très froids.
Lumon, c'est donc l'entreprise pour laquelle il travaille.
Ouais. Une entreprise qui produit, on ne sait pas. En tout cas, pas beaucoup de sens. Et c'est ça que veut raconter la série. Je pense que quel est le sens qu'on donne à nos vies, quel est le sens qu'on donne à notre travail, le rapport, même à notre intimité. Enfin, tout ça est... Moi, je trouve que c'est assez finement questionné d'un certain point de vue, mais si ça avait été une mini-série en 10 épisodes, ça aurait été peut-être extraordinaire. Là, je sens que ça tire à la ligne, en fait. Et sur cette forme, alors moi, je trouve ça beau, mais la beauté m'intéresse finalement assez peu dans une forme... Il y a quand même images et sons qui sont très, très soignés. C'est Ben Stiller qui réalise la plupart des épisodes.
Et qui produit, donc, hein, c'est
qui
ça
Je dis, c'est son... Je sais pas si c'est son outie ou son inid, parce que c'est quand même un grand comique, Ben Stiller. Et là, c'est vraiment pas une série extrêmement drôle. Un peu pince sans rire, faut pas exagérer. Il y a des passages comme ça, d'une vague ironie sur la petitesse de l'être humain. Mais je trouve simplement qu'il se fait... C'est aussi quelqu'un qui joue au grand réalisateur, au grand cinéaste. Chaque plan dure à peu près deux fois plus longtemps qu'il devrait durer. J'ai le sentiment, moi, d'entrer dans une série tellement léchée et soignée qu'au fond, elle perd toute la possibilité de faire un vrai commentaire sur le monde ou sur ses personnages, quoi, parce qu'elle s'oublie un peu.
Nora Bozzoni.
Et d'ailleurs, il y a, je crois que c'est le critique de Rolling Stone qui écrivait que, en fait, peu importe ce que la série va raconter, il est juste content qu'elle existe. Et je crois qu'on peut disserter longtemps là-dessus. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je crois que c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Il ne fait pas qu'une série existe parce qu'elle est belle et parce que j'ai envie juste de regarder ça avec ou sans le son pour la rendre intéressante. Et je rejoins complètement Olivier. Ma conclusion était la même, qui était une mini-série, ça aurait été largement suffisant.
Et ben, ce sera la conclusion de ce premier débat. Severance saison 2, c'est sûr. Apple TV.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Family Like Ours, en français Une famille comme la nôtre, c'est le titre de la première série de Thomas Vinterberg. Vinterberg, cinéaste danois, est notamment le cofondateur du Dogme avec Lars von Trier dans les années 90. Il est aussi le réalisateur de Festen, plus récemment de Drunk, oscarisé en 2021. Pour son passage à la série, il propose un scénario catastrophe. Le Danemark est sur le point d'être totalement envahi par les eaux. Sa population doit donc évacuer et trouver refuge à l'étranger, en France, en Finlande, en Roumanie, des réfugiés climatiques donc. Et ici, ils sont plutôt issus de classes privilégiées. Family Like Ours est disponible sur MyCanal. On commence avec un avis rapide, Olivier Joyard.
Ben, moi, Thomas Vinterberg est un sujet contemporain et excitant, quoi, autour, enfin, excitant, en tout cas pertinent, a priori, autour du réchauffement climatique, des flux migratoires. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus, a priori, d'une série de 2025? Et pourtant, ça m'a pas trop convaincu. La série me paraît rater sa cible, et notamment du point de vue politique, ce qui est assez gênant.
Nora Bozzoni.
Quoi? Qu'ajouter d'autre? Je ne sais pas parler avant et je suis assez d'accord. Il avait un sujet en or pour parler politique, justement, pour parler climat, pour parler justice sociale, pour parler migration. Il s'est trompé. J'ai l'impression que c'est justement, on a souvent des cinéastes qui disent quand ils se mettent aux séries, non, j'ai pas fait une série, j'ai fait un film de 6 heures, comme par snobisme. Et là, je pense que c'est un film de 7 heures et donc c'est une série ratée.
On va écouter tout de suite la bande-annonce de Family Like Ours.
Ce que je vais vous annoncer aujourd'hui aura de très grandes répercussions sur la vie de tous les Danois.
Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Les gens pètent les plombs.
Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens pleurent dans la rue.
Tu crois vraiment qu'on va devoir partir?
Ça va être un vrai chaos.
Family Like Hours de Thomas Vinterberg. Olivier Joyard, comment expliquer alors qu'il rate sa cible, effectivement, avec un sujet en or, comme vous le disiez, Nora?
Oui, puis dans ce qu'on a entendu, ça fait aussi un peu envie, parce que c'est quoi le début de la série, tout ça?
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire que ça ne va jamais vraiment creuser ce sujet-là, qui est l'effondrement d'un monde. Et ça, c'est quand même pas rien aujourd'hui. C'est-à-dire que ça raconte quelque chose qu'on connaît tous et toutes, qu'on peut peut-être éventuellement ressentir depuis 5, 10... à les 20, puis ça a toujours existé à toutes les époques, mais là, c'est une sensation très, très contemporaine du monde qui s'écroule, quoi. De se dire, on pourrait changer de vie du jour au lendemain, on pourrait se retrouver confiné, on pourrait se retrouver submergé par des inondations. Sentiment de vivre presque une dystopie permanente, en direct, quoi, dans nos vies. Donc tout ça, la série le propose, en tout cas dans ces deux premiers épisodes, de façon, je trouve, pas inintéressante. Et moi, j'aime beaucoup la petite ironie politique qui est de faire... La figure du migrant est une personne, aujourd'hui, une personne blanche dans cette série, une personne riche, une personne qui va essayer de surtout pas aller se retrouver en Roumanie, parce qu'il faut que tous les Danois vident le pays quand même. C'est quand même pas rien ce qui se passe. Et donc certains veulent aller en France, étudier à la Sorbonne, d'autres en Angleterre. Donc voilà, il y a toute cette... c'est encore une fois... Là, Nora parlait d'un film de 7 heures. Moi, je me serais contenté peut-être d'un film d'une heure et demie qui m'aurait raconté cette histoire de façon plus resserrée, plus tendue. Là, je trouve peut-être c'est un mauvais film de 7 heures ou une mauvaise série. Finalement, ça m'importe assez peu parce que je trouve Vinterberg beaucoup trop psychologique dans son approche et pas assez politique. On pourrait peut-être y revenir. Mais
je pense que Nora a un avis sur cette question-là du politique.
Je voyais une interview de Vinterberg qui disait « J'aime parler de ce qui dérange, mais moi, je trouve que, j'ai vu la tête qu'Olivier vient de faire. Je trouve que rien ne dérange, moi, dans cette série. Il n'y a aucun propos qui me dérange. C'est une série, je trouve, très proprette. C'est un casting qui est sans saveur. Moi, j'avais pas du tout envie de savoir ce qui allait arriver à ces gens, comme tu le disais, Olivier, qui sont des blancs privilégiés, qui n'ont qu'une crainte, c'est le déclassement social.
Ça pourrait être très ironique, ça pourrait être intéressant de montrer ça.
Ça pourrait être intéressant. C'est marrant parce que la bande-annonce, moi je ne l'avais pas entendue ni vue avant de regarder la série, et là ça fait très catastrophe, il va se passer des choses quand même incroyables. Non, je trouve qu'on est sur une espèce d'encéphalogramme plat tout au long de la série. C'est fade, la réalisation est fade, il n'y a pas de parti pris. Je me fiche de ce qui leur arrive. Et justement, je trouve que on parlait justement de ces migrants-là sont des migrants blancs privilégiés, etc. Et j'ai l'impression que Vinterberg a voulu extorquer au public une empathie naturelle qu'on devrait avoir vis-à-vis de toute personne migrante. Et je trouve ça franchement grotesque et raté d'essayer d'avoir de l'empathie, de dire « Ah mais regardez, quand c'est des blancs, vous pensez pas pareil ?» On est presque dans de la démagogie. Donc, politiquement, il n'y a rien. Je suis restée couette devant cette... Je me suis noyée dans l'absence de propos et de sujets de cette série.
Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement pendant 7 heures alors,
il raconte cette histoire donc, d'une catastrophe et d'un pays qui se vide. Et puis après, en fait, il est en focal élargi au début. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'on va avoir une grande série chorale, collective, et puis après ça se resserre dans les 3-4 derniers épisodes autour principalement d'une adolescente qui s'appelle Laura, je crois, et qui veut retrouver son premier amour, qui lui essaye lui-même de la retrouver, mais passer les frontières est un problème de nos jours, et donc ils n'y arrivent pas très bien. Donc tout ça est une sorte de jeu presque, alors je dirais pas un jeu, c'est pas drôle, mais la façon dont Vinterberg, en fait il y a peu d'éléments de vrai suspense et de vraie dureté, en fait c'est ça qui me... Il raconte même Vinterberg qui ne s'intéressait pas à la question politique. Bon, alors très bien, sur le climat, sur les migrants, si on ne s'intéresse pas à la politique, je me demande à quoi on s'intéresse, mais c'est une autre question. Lui, il dit, je m'intéresse au... Qu'est-ce qu'on fait quand on est séparé des gens qu'on aime? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand on vit une catastrophe intime, un ébranlement. Il l'a fait avec Feston, ça avait autrement plus d'ambition et d'ampleur, quoi. C'était beaucoup plus acéré. On se souvient tous de Feston. Je me souviens de projections de Feston où les gens hurlaient que les choses qui étaient décrites à l'écran leur étaient arrivées dans la vie. Et c'est, Et ça ne s'arrête pas, ça reste un film contemporain, Fest and Lies. C'est comme s'il faisait une série qui n'avait presque pas le souci du contemporain et qui n'est pas tant dans l'intime que ça. Moi, j'aurais aimé, à la limite, qu'il nous montre des personnages brisés par ce qui se passe, y compris si c'est des grands bourgeois. C'est vraiment pas la question, en fait. Mais là, tout se dérobe sous nos pieds. Et puis, il y a une dernière chose qu'on pourrait peut-être aborder... En tout cas, sur ce qui manque à la série, c'est de prendre le réchauffement climatique comme un sujet, quoi, le prendre un peu au sérieux du point de vue figuratif, de filmer tout ça.
Est-ce qu'il ne filme pas, on ne voit pas.
Attends que ça.
On a une scène finale, je crois, avec la capitale complètement inondée.
Ouais. Et puis des photos d'anciennes inondations, j'ai l'impression, il me semble. Donc ça reste. C'est comme si il voulait pas vraiment nous mettre le nez là où se passe quelque chose, quoi.
Mais c'est vrai qu'on peut se demander si montrer des gens qui sont séparés par une migration, il aurait pu effectivement s'intéresser aux véritables migrants, en tout cas.
Oui, après, il s'y intéresse parce qu'on a aussi cette jeune fille, justement, dont les parents sont séparés, qui va donc devoir se séparer encore davantage de sa mère, qui doit faire un choix, en fait, entre plusieurs personnes, son amour, son père, sa mère, etc. Mais moi, je trouve que les personnages étaient assez pénibles. Et puis, on aborde le politique dès le début, puisqu'on a un homme qui travaille en politique et qui va se servir des informations qu'il a sur la future annonce imminente du gouvernement d'évacuation du pays pour vendre sa maison. Il est en couple avec quelqu'un de richissime qui a hérité. Et donc, on a ces personnages-là qui sont des personnages qui ont eu des informations qu'ils n'auraient pas dû avoir, qui s'en servent, qui sont donc détestables dès le début. Il y a un conflit avec un frère. Enfin, mais finalement, évidemment, en fait, il n'y a pas de politique. Moi, j'aurais peut-être aimé que la série commence plus tôt. Ouais. En fait, c'est-à-dire que là, il y aurait eu du politique. La série commencerait plus tôt. On nous montre comment le Danemark a essayé pendant des années justement de remblayer, de mettre des digues, etc. Parce qu'on parle aussi des Pays-Bas dans la série qui font la même chose. Là, on aurait peut-être eu quelque chose avec plus d'ampleur. Là, on arrive vraiment au moment où l'alarme sonne, quoi, en gros. Et je pense que c'est peut-être là où ça pêche.
Ça me fait penser, moi, mais peut-être dans une version ratée, d'après ce que vous dites, à Years and Years, où la catastrophe est là aussi.
Ouais. Moi, j'ai un peu pensé à Years and Years presque par défaut.
C'est une série britannique.
Une série de Russell T. Davis, qui a notamment fait It's a Sin récemment sur l'épidémie de sida des années 80 en Angleterre et sur les discriminations envers les personnes malades à cette époque-là. Une série extraordinaire. Il avait fait donc Years and Years, qui date il y a à peu près 5 ans, je crois, et qui imaginait, lui imaginait carrément 2025, un gouvernement néo-fasciste, les banques, tout était là, quoi. Et c'est vrai qu'on a un petit sentiment de fadeur quand on voit la série de Vinterberg. C'est comme si, c'est peut-être le problème des cinéastes qui font des séries, ils prennent peut-être pas le temps de regarder les autres séries qui ont été faites sur le sujet, et quand bien même ils n'avaient pas envie d'avoir l'ampleur de Years and Years, qui est une série vraiment sur une famille qui se déchire au fur et à mesure et puis qui passe à plein d'époques. Enfin, c'est extrêmement riche, quoi. Là, il a voulu resserrer, c'est-à-dire nous, au fond, aller dans une humanité de ces personnages qui serait révélée par une catastrophe. C'est un peu ça l'idée centrale, je dirais. Qu'est-ce qu'on révèle de nous? Ça nous est arrivé, je pense, durant le Covid. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir à cette époque-là. C'est-à-dire que est-ce qu'on sort de notre carapace pour révéler quelque chose au monde? Et finalement, j'aurais aimé que ce soit le cas. Moi, je le vois un tout petit peu dans... notamment, il y a des gens qui défendent leur château à un moment, qui veulent pas payer des ouvriers, qui sortent une carabine, qui deviennent presque des meurtriers, des patrons meurtriers, quoi, je dirais. Ça m'intéresse. Ça, c'est dur, ça, c'est assez politique, mais ça dure un quart d'heure dans la série, quoi.
Mais en fait, ce que tu dis, Olivier, sur les cinéastes qui regardent pas les séries, c'est ce que je m'étais noté justement par rapport à la phrase de Vinterberg quand il dit « j'aime parler de ce qui dérange ». Moi, je m'étais écrit « je crois qu'il a pas regardé de série depuis 10 ans, en fait, Vinterberg ». S'il pense que sa série va déranger, que son propos est dérangeant, j'aimerais vraiment qu'on m'explique en quoi ce propos est dérangeant. Si le seul propos dérangeant qu'il insinue, c'est que des Blancs puissent devenir des réfugiés climatiques, et d'ailleurs, on le voit en Bretagne, il y a eu un article la semaine dernière, il y a le premier village en Finistère qui va être rasé à cause justement de la montée des eaux. Là, ça va être intéressant, mais en fait, il dérange personne, Vinterberg, avec sa série.
Mais en fait, il pourrait déranger, même en prenant des Blancs qui sont obligés de migrer.
Et ce qui me dérange, c'est que la seule crainte des Blancs, c'est le déclassement social.
Et il en fait quoi de ça?
J'ai pas le sentiment qu'il en fasse grand-chose, parce qu'il y a quelque chose qui se joue autour d'une arrivée à Paris, d'une famille qui... En fait, Il montre des gens qui rejouent leurs privilèges, quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'ils se rendent. Il y a vraiment que c'est assez marquant parce que c'est vraiment le sens scénaristique. C'est un père de famille qui pense qu'il va arriver à contourner une loi locale, une loi française en l'occurrence, pour avoir des nouvelles de quelqu'un de sa famille et qui se retrouve donc incapable de travailler. On ne lui donne pas de permis de séjour parce qu'il a, il a contourné la loi. Et donc voilà, Vinterberg nous dit, voilà la leçon, respectez la loi, mes chers amis, et soyez... Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez confus dans cette... Il y a quelque chose de petit malin, un petit peu. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais vous montrer des personnages qui sont... en difficulté, je vais les laisser un peu tournoyer sur eux-mêmes, je vais les sanctionner ou pas. On ne sait pas trop quelle est sa boussole morale et on ne sait surtout pas ce qu'il pense du sujet. Des hommes politiques qui sont quasiment les grands absents de cette hommes et femmes politiques qui sont absents de la série. On les voit au début annoncer les mauvaises nouvelles, mais c'est des pantins. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est comme si tout ça arrivait par l'opération du Saint-Esprit. Quoi. Un réchauffement, un pays qui doit être évacué. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup mieux à faire.
Quand même, dans Years and Years, on avait la question des migrants, mais encore une fois, c'était des Blancs qui traversaient et dont un mourait. Ouais. Donc voilà, donc quand même, il y a une vraie question de cette capacité.
C'était une scène déchirante parce que c'était un couple, quelqu'un qui perdait une personne qui lui était extrêmement proche. Là, il y a jamais, à aucun moment dans Families Like Ours, il dit des familles comme nous, voilà. Il y a aucun moment cette émotion, ce submergement-là de quelque chose de vraiment intime. C'est-à-dire que, en gros, la politique pour Vinterberg ou un récit, un point de vue de cinéaste ou de réalisateur, ça se limite à et toi, qu'est-ce que t'aurais fait, quoi. Je trouve ça vraiment très, très faible.
Nora, non, dernier mot.
C'est que, en fait, cette histoire de déchirement, de déplacement, même entre personnes blanches, non racisées, privilégiées, ben, ça fait des années qu'au cinéma, on le voit, quoi, dans les films catastrophes, les films de science-fiction, etc. Et on a de l'émotion. Et là, moi, j'ai vraiment aucune émotion pour aucun de ces personnages. Donc, c'est raté aussi à ce niveau-là.
Est-ce que c'est une série pour adolescents, finalement, peut-être, puisque l'héroïne est une adolescente?
Peut-être que le récit d'apprentissage qui se joue garde la trace d'une forme de sensibilité de Thomas Vinterberg. C'est-à-dire qu'on peut regarder la série pour ça.
Alors, Family Like Ours, c'est sur MyCanal, Nora Boisouni et Olivier Joyard. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer et donner votre avis. Évidemment, toutes les références, les infos, c'est sur la page des Midi de Culture.